Question politique, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Questions politiques, le rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Notre invité aujourd'hui, il est en charge de quelques-uns des chantiers majeurs du quinquennat. Lui-même se dit en même tantiste et il est peut-être en train de réussir ce qu'on disait impossible, à savoir une réforme en profondeur du système éducatif. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, viendra nous rejoindre dans quelques minutes. Vos questions, vos remarques, vos commentaires sont les bienvenus sur Facebook Live ou sur Twitter. Vous connaissez le mot-clé Question Paul.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Et avec moi en studio, l'équipe de questions politiques, trois femmes puissantes. Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Ça va?
Oui, plus ça serait trop, mieux. Donc c'est pas de la syntaxe, donc comme monsieur Blanquer, je vais me taire, je vais dire que tout va bien.
Bonjour Nathalie Fressoz du journal Le Monde. Ça va Françoise?
Très bien. Tout le monde
ça va très bien Ali.
Tout le monde va bien. Bonjour Karine Bécard de France Inter. Vous aussi, vous avez l'air d'aller parfaitement bien.
Ouais, je suis en forme, tout va bien.
Eh ben écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, Nathalie?
Ah, ce qui m'a marqué, c'est l'émission de sur France 2. Je plaide pour ma chapelle. Avec Laurent Wauquiez. On a découvert un Laurent Wauquiez dont on se disait qu'il allait peut-être un peu gommer certains traits saillants et un peu désagréables de sa personnalité. Eh bien, pas du tout. Il est over décomplexé. On l'aime pas, c'est pas le sujet. Tout le monde s'en va autour de lui, Juppé. Eh bien, c'est bon vent. Maël de Calan, Florence Porteri, Alain Juppé, bah, pas de souci. Hier, on a vu Valérie Pécresse se faire siffler. Ça n'a pas l'air d'émouvoir excessivement Laurent Wauquiez. En fait, on l'a entendu toute la soirée tenir un discours extrêmement proche du Front National sur l'Europe, sur l'immigration. Et je me disais, le problème, c'est plus de savoir s'il y a une ligne rouge ou une porosité entre la droite et l'extrême droite, c'est que lui-même a décidé de porter un discours qui est un discours extrêmement proche de l'extrême droite. Et son calcul est le suivant. Il n'y a plus beaucoup d'espace avec Emmanuel Macron qui prend le centre droit. Oui. Donc qu'est-ce qu'il lui reste? Le rassemblement de la droite et d'extrême droite. Deuxième calcul, Marine Le Pen pour lui est cramée. Donc il se dit qu'à terme, les électeurs vont préférer gagner avec lui que perdre avec Marine Le Pen. Et c'est ce qu'il a configuré et c'est sur quoi il avance avec constance. Donc voilà, ça sera le grand leader de la droite et de l'extrême droite, et c'est là-dessus, je ne vais pas dire droit dans ses bottes, parce que c'est l'expression, elle est tellement utilisée à tort et à
Usée
travers,
jusqu'à la corde.
Et en plus toujours avec un soupçon de,
j'ai
quelque chose de positif, enfin quelque chose de positif, simplement c'est un calcul et sa niche marketing est bien établie.
Françoise Fressoz.
Le fait de la semaine, pour moi, c'est la semaine dans son ensemble, une semaine difficile, j'ai trouvé, pour le gouvernement, avec d'abord cette série de renoncements assumés par Édouard Philippe, renoncement à Notre-Dame-des-Landes, et dans la foulée, renonçant à l'exposition universelle de 2025, et dans la foulée, rééquilibrage à la baisse du métro du Grand Paris, dont le précédent gouvernement avait mal évalué les coûts. Difficulté aussi à cause du conflit dans les prisons que le gouvernement n'avait pas vu venir. 12 jours de crise au cours desquels on s'est interrogé sur la pertinence d'avoir placé au ministère de la Justice une technicienne plutôt qu'une politique. Et pour terminer, cette plainte pour viol qui vise le ministre du Budget, Gérald Darmanin, lequel a immédiatement riposté par une plainte pour dénonciation calomnieuse sur fond de guerre des sexes rallumée par l'affaire Weinstein. En d'autres temps, toutes ces difficultés auraient immédiatement affaibli le gouvernement. Cette fois, les dégâts ont été contenus par une solidarité sans faille au sein de l'exécutif. On n'a pas entendu un mot désagréable au gouvernement contre la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, qui a été soutenue dès le début par le président de la République. Et dès que Gérald Darmanin a été mis en cause, le Premier ministre est monté en renfort. Il n'empêche, cette semaine est un avertissement. L'exécutif est sorti de sa zone de confort, celle qui lui permettait de dérouler ses promesses de campagne. Il doit faire face à l'imprévu, aux crises, aux ajustements, à toutes ces avanies qui ont fini par saper l'autorité de ses prédécesseurs.
Merci Françoise. Karine ?
Un des faits marquants de la semaine aussi, ça a été la décision de François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, d'interdire pour les députés, dans l'hémicycle, le port ostensible de signes religieux. Alors c'est surprenant et c'est gênant à la fois. Pourquoi ? Parce qu'un député n'est absolument pas un fonctionnaire. Le fonctionnaire représente l'État, il représente l'administration. Donc effectivement, il est tenu à une stricte neutralité. Mais ce n'est absolument pas le cas de nos élus. Un élu, lui, représentait les électeurs, il représente les gens, il représente la population. Donc on ne lui demande pas, à cet élu, d'être neutre. Au contraire, on lui demande d'avoir des convictions. Et d'ailleurs, il est même élu pour cela, pour les convictions qu'il a, les croyances, etc. Ce qui est surtout très étrange dans toute cette affaire, c'est que la question ne se posait pas. Mais absolument pas. Il n'y a pas de voile, il n'y a pas de kippa, il n'y a plus de soutane à l'Assemblée nationale. Donc on aimerait bien comprendre ce qu'a voulu faire François de Rugy. On aimerait bien comprendre éventuellement de qui ou de quoi il a peur et s'il se réclame, comme Manuel Valls, d'une laïcité radicale.
Et pour lui, quel est le fait marquant de la semaine? On va le demander à notre invité. Il a sous son autorité 12 millions d'élèves, près de 900 000 enseignants. Dans ses vœux pour la nouvelle année, il disait vouloir bâtir une école de la confiance, inventer la société de demain en faisant entrer les élèves dans le 21e siècle. Je referme les guillemets et j'accueille le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Cette semaine, vous était remis le rapport Mathiot sur l'avenir du baccalauréat. Tout le monde attend maintenant vos arbitrages. Sur ce sujet, comme sur tant d'autres, votre parole est très attendue. D'abord, un mot qui revient très souvent dans vos discours, c'est le mot bonheur. Donner le mot bonheur, le bonheur aux enseignants d'enseigner, donner aux élèves le bonheur d'aller à l'école. C'est un drôle de mot dans la bouche d'un ministre de l'Éducation, ce mot-là.
Le mot bonheur, c'est un mot français en réalité. Et on l'a un petit peu perdu de vue depuis quelques décennies, je pense. Mais si vous regardez des figures historiques ou des figures de notre imaginaire national, la France est un pays de bonheur. C'est Fanfan la Tulipe, c'est D'Artagnan, c'est... Du côté des personnages historiques, c'est Jeanne d'Arc, c'est Bonaparte au pont d'Arcole. Alors, c'est pas tous des figures.
C'est l'image du bonheur.
Si, c'est l'image de l'allant, si vous voulez. Et c'est ça que l'école doit traduire aussi. Et l'école de la République a souvent aussi été dans cette image de l'allant. Donc, il faut retrouver ça, tout simplement.
Vous nous direz comment. Avant ça, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité, Jean-Michel Blanquer?
Eh bien, écoutez, jeudi, j'étais à Bruxelles, à quelque chose qui s'appelait le premier sommet européen de l'éducation, organisé par la Commission européenne, avec plusieurs ministres de l'éducation, et j'ai trouvé que c'était un très bon moment, pour différentes raisons. D'abord parce que c'était une initiative pour voir un petit peu quels étaient nos défis communs, alors que l'éducation, c'est typiquement un sujet des pays, voire parfois même des régions.
Oui.
Mais il est intéressant de voir qu'en réalité, nous avons les mêmes défis au XXIe siècle, avec l'entrée dans la civilisation numérique, avec les enjeux des valeurs que nous transmettons au travers de l'école, etc. Et donc, il y a beaucoup à faire. Et comme il y a eu en plus le message de la Sorbonne, le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron sur l'Europe et sur l'Erasmus des lycéens, cela m'intéresse beaucoup d'arriver à avancer sur ce sujet pour faire plus circuler les lycéens en Europe, et en particulier les lycéens professionnels. Là aussi, pour renouer avec des choses qui parfois s'ancrent très loin dans notre histoire, quand on faisait des tours d'Europe des compagnons, par exemple. Et donc, c'est ce genre d'idées que l'on va promouvoir dans le futur. Et puis, plus généralement, ça permet de prendre conscience de la dimension internationale de l'éducation, qui nourrit la dimension locale de l'éducation. À la fin de la semaine prochaine, il y aura le sommet de Dakar sur l'éducation dans les pays en développement. Et sur les sommes que le monde entier va réunir dans le cadre de l'ONU pour faire progresser l'éducation. Et on sait bien que c'est le défi d'équilibre du monde qui vient. C'est-à-dire, est-ce que l'on va réussir à consacrer à l'échelle mondiale les moyens nécessaires à l'éducation pour être dans des sociétés qui marchent?
Vous restez avec nous. On vous retrouve dans quelques minutes. D'abord, le zapping politique d'Élodie Forêt.
My first message is that France is back. France is back. France is back. Let me
say yeah. Cette semaine, nous dit Emmanuel Macron, la France est de retour. À Davos comme au Puy-de-Dôme, le président a une nouvelle fois livré sa vision. Tandis qu'à l'Assemblée, un autre président, François de Rugy, planchait sur une problématique bien plus terre à terre, le dress code des parlementaires.
On fixe un cadre et des limites. Et moi, j'ai souhaité que les limites soient clairement fixées sur la base d'un principe simple qui a toujours été celui de l'Assemblée, c'est qu'on s'exprime dans l'Assemblée par la parole. Ben oui, nous sommes des êtres humains. Et donc les êtres humains, ils démontrent l'intelligence de leurs arguments par la parole.
Un cadre et des limites. Exit donc les signes religieux, les uniformes et les maillots de foot à l'Assemblée, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit. Éviter un nouveau coup d'éclat de l'insoumis François Ruffin et de ses collègues.
De toute façon, j'ai pas choisi de faire de l'Assemblée nationale un lieu de défilé non plus. Moi, je pense que la question intéressante là-dedans, c'est qu'en fait, il y a eu tout un débat sur combien de millions de vues au sein du bureau de l'Assemblée nationale j'ai fait avec ce maillot. Et en fait, ce qui les inquiète, c'est que cette Assemblée nationale devienne une tribune populaire. Parce que jusqu'à maintenant, personne ne regardait ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et en effet, à partir de quelques coups d'éclat, de choses comme ça, l'Assemblée nationale peut devenir une tribune populaire. Et comme ils savent pas faire ça, ça les embête. Et donc, il faut qu'ils nous passent les menottes au poignet un petit peu pour qu'on n'attire plus l'attention de la même manière.
Je dépasse aisément toutes les limites quand je commence.
On fixe un cadre et des limites, et des limites, et des limites.
Alors je dépasse et j'aime en faire. Bétonne, ça irrite les braves gens pleins de raisons qui respectent les limites.
Limites ou nos limites? Nos limites, répond aussi le patron du Sénat Gérard Larcher, sur un tout autre sujet, la réforme constitutionnelle et le cumul des mandats dans le temps.
La limitation à 3 mandats consécutifs, vous êtes farouchement contre.
Je suis contre parce que ça touche à l'article 6 de la Déclaration universelle. Les citoyens sont libres
de choisir.
Vous avez expliqué qu'il n'y avait que 12 sénateurs, voire 7 même, qui étaient concernés par ce cumul des mandats dans le temps. Il y a vous déjà.
Les électeurs, ils m'ont réélu de manière massive au mois de septembre dernier. C'est donc que la confiance que les élus m'ont témoigné au mois de septembre, elle était au rendez-vous.
Mais c'est aussi donc normal que vous ayez la vision d'un incorrigible cumulard.
Je ne suis pas un cumulard.
Ce que j'ai à faire est impensable. Ils ne m'arrêteront plus maintenant. Il n'y a plus de limite.
Dans son bras de fer avec Emmanuel Macron, Gérard Larcher tient le rapport de force. Gérard Larcher, pas tendre, il y a quelques semaines avec Laurent Wauquiez, mais qui jeudi soir était au tout premier rang dans le public de l'émission politique sur France 2 où était reçu le nouveau chef des LR. Un soutien plus que bienvenu pour Laurent Wauquiez, le mal-aimé, qui continue sans ciller sa stratégie « nos limites » sur sa droite.
Vous pensez que parce que le Front National aborde un sujet, je ne vais pas l'aborder ?
Non, j'ai pas dit ça.
Eh bien, je vous réponds. J'aborde des sujets qui sont importants pour les Français et j'essaye d'apporter les réponses dont je pense qu'elles permettront d'amener notre pays dans une meilleure direction. Et de la même manière que je ne veux pas laisser le monopole du social à la gauche, je ne veux pas laisser le monopole du discours sur l'immigration à l'extrême droite.
Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous n'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre qui bat à sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur.
Vous n'avez pas le monopole du cœur. Vous n'avez pas, monsieur, vous n'avez pas. Vous n'avez pas le monopole du cœur. C'est trop facile de s'en prendre au dictateur.
Merci, Élodie. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est notre invité ce dimanche.
France Inter, Ali Badou. Question politique.
Et c'est la tradition, Jean-Michel Blanquer, votre portrait signé Karine Bécard.
Bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour.
Jean-Michel Blanquer, vous avez aujourd'hui, c'est vrai, le titre de ministre, mais vous semblez être resté ce que vous avez toujours été, c'est-à-dire un enseignant, un professeur agrégé de droit public et un chercheur, enfin un chercheur au sens d'expérimentateur. Parce que depuis longtemps déjà, vous êtes capable, pour l'éducation nationale, de presque tout inventer, d'oser tout imaginer. D'où vient cette envie sans cesse de tout bousculer ? Peut-être des récits que vous faisait votre mère, Jean-Michel Blanquer, vous auriez été très marqué petit par ces journées qu'elle passait en banlieue à Argenteuil et qu'elle vous racontait quand elle était prof d'anglais. En tout cas, vous avez été, vous, un élève exemplaire, petit parisien des beaux quartiers, inscrit dans de prestigieux établissements privés, avant d'enchaîner les diplômes universitaires, comme vous avez enchaîné ensuite les postes à responsabilité. C'est bien simple, en 20 ans, vous n'avez pas arrêté. Directeur de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, parce qu'on le sait peu, mais vous êtes fasciné par la Colombie en particulier. Vous avez été le très atypique ou très fantaisiste recteur de l'Académie de Créteil. Vous avez aussi dirigé l'ESSEC, une des plus grandes écoles de commerce, sans oublier la direction générale de l'enseignement scolaire rattachée au ministère, qui a fait de vous, Jean-Michel Blanquer, à 45 ans seulement, une sorte de ministre bis de l'éducation nationale. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes installé rue de Grenelle. Vous séduisez à droite avec votre discours bien rodé sur le retour de l'autorité. Et en même temps, je le dis à bon escient, vous avez su bluffer à gauche dès la rentrée avec le dédoublement notamment des classes de CP. En fait, vous êtes à la fois libéral et conservateur, parfois strict, mais le plus souvent pragmatique. Bref, vous êtes un ministre de l'éducation taillé sur mesure pour Emmanuel Macron.
Réaction, Jean-Michel Blanquer.
Mais d'abord, juste un point sur un oubli, puisque vous n'avez pas dit que j'étais recteur de Guyane, et je pense j'y tiens beaucoup, donc je tiens à le préciser. Et ça m'a beaucoup marqué, c'est la première fois que j'étais recteur, et c'est peut-être là que j'ai appris un certain nombre de choses qui aujourd'hui vous interroge, notamment le pragmatisme finalement. C'est-à-dire que quand j'étais en Guyane, j'avais à résoudre des problèmes très concrets, y compris la scolarisation concrète des enfants, puisque ça n'était pas toujours facile. Et là-bas, j'ai pu rassembler les gens autour de ces enjeux. Et ce qui m'a parfois surpris d'ailleurs ensuite, c'était à quel point il pouvait y avoir des conflits en métropole sur des sujets qui, au fond, étaient artificiellement des conflits. Parce que quand on veut l'éducation des enfants, en réalité, on n'est pas sur un sujet de gauche ou de droite, on est sur un sujet républicain qui consiste à faire le mieux possible pour amener les enfants vers le futur meilleur. Et normalement, c'est un sujet qui ne devrait pas être très politisé, ça l'est trop, je pense, en France. Et donc, aujourd'hui, j'essaye d'aborder ça avec pragmatisme. Pragmatisme, ça ne veut pas dire qu'on fait un petit peu ce qui vient au jour le jour. Au contraire, ça suppose de ne pas avoir des réflexes idéologiques tout faits, mais de regarder les problèmes, de les traiter sur la base de valeurs. Ces valeurs, elles sont simples, c'est liberté, égalité, fraternité. Et avec ça, on arrive à avancer. Et il faut parfois innover, c'est très important, être aux avant-postes du XXIe siècle, mais en même temps, être conscient qu'on vient de quelque part, qu'on a besoin aussi d'enraciner nos enfants dans une histoire, dans des valeurs, et donc, comme je le dis parfois, de leur donner à la fois des racines et des ailes. Et c'est ça mon cocktail, si je puis dire, et
du coup,
qui
si
en fait n'est pas très difficile à
comprendre. Ni de droite,
comprendre.
Ni de gauche, comme vous l'expliquez, vous vous sentez macroniste ou pas? Vous le diriez ça ou pas?
Ah bah bien sûr, je me sens tout à fait macroniste. Du premier jour où nous nous sommes parlé, je me suis senti macroniste parce que je sens avec lui une vision commune. Enfin, et ça touche d'ailleurs à peu près tous les sujets. Je comprends à demi-mot ce qu'il a en tête. J'aime son projet pour la France. Ça.
Avouez quand même que c'est une alchimie assez mystérieuse, puisque vous réussissez à plaire à la fois aux conservateurs quand vous parlez de valeurs, d'autorité, de retour aux savoirs fondamentaux, et en même temps vous mettez en avant le travail en groupe, l'épanouissement des élèves, ce qui rappelle une sorte d'esprit Montessori, voire 68 heures, disait Thomas Legrand sur notre antenne. C'est comme si vous étiez le maître étalon du macronisme. Vous validez?
Oui, parce que je pense que, enfin, vous pouvez appeler ça.
Comment expliquer l'énigme?
Vous pouvez appeler ça le macronisme. On peut appeler ça aussi bon sens. C'est-à-dire que, encore une fois, l'éducation n'est pas de gauche et droite. Et chaque parent le sait quand il élève son enfant. C'est-à-dire qu'on est à la fois exigeant avec son enfant si on l'aime, et en même temps, on ne veut que son bien et son bonheur. On veut son épanouissement, mais on veut aussi qu'il apprenne beaucoup de choses, et ainsi de suite. Donc, c'est vrai pour l'école de la même façon. On a besoin en permanence de ce sens de l'équilibre. Donc, si vous prenez l'exemple de l'école maternelle, c'est un très bon exemple, parce que c'est un moment décisif, et comme vous le savez, à la fin du mois de mars, on aura des assises de la maternelle avec
organisées par Boris Cyrulnik.
Tout à fait. Donc que va-t-on illustrer à ce moment-là, et que va-t-on approfondir? Eh bien, que justement, on marche sur deux pieds, c'est-à-dire on a besoin d'épanouissement, on a besoin d'attachement, c'est ce que dit beaucoup Boris Cyrulnik, on a besoin donc du jeu, de la musique, on a besoin de ce bonheur. Surtout pour cette entrée dans le monde de l'école qui est décisif pour la suite, pour l'état d'esprit qu'il indique. Et il faudra d'ailleurs le garder, si possible, tout au long du parcours. Mais en même temps, ce bonheur, cet épanouissement, ce jeu, cette musique, c'est au service d'objectifs pédagogiques, en réalité, très importants, fondamentaux, notamment l'acquisition de beaucoup de mots, de vocabulaire, pour ensuite avoir tous les atouts dans la vie, et puis compenser les inégalités sociales de cette façon-là en particulier. Donc, alors que parfois, dans le débat, y compris le débat éducatif, vous allez avoir des gens qui vont se dire « Non, moi, je suis du côté de l'épanouissement », d'autres qui vont dire « Je suis du côté des apprentissages », alors qu'en fait, c'est évidemment les deux en même temps, et pas parce que, par plaisir de vouloir à tout prix créer du en même temps, mais c'est parce que c'est une sorte d'évidence humaine.
Nathalie Saint-Cricq, puis Françoise Fressoz.
Jean-Michel Blanquer, sans créer du en même temps, on a entendu Virginie Calmels dire que vous étiez le meilleur ministre qu'elle avait jamais vu, Laurent Wauquiez pousser des cris d'orfraie tellement il vous trouvait bien. est-ce que vous considérez que vous arrivez au bon moment pour faire le bon boulot? C'est-à-dire qu'on a l'impression que depuis 10 ans, l'enseignement, l'éducation nationale, toute réforme est un enjeu droite-gauche avec les syndicats qui bloquent. Voilà. Est-ce que vous pensez que la société est mûre et que c'est pour ça que vous traversez la mer Rouge?
Jean-Michel Blanquer.
Alors, je reprendrai pas votre métaphore pour plusieurs
biblique.
Raisons.
Mais on va voir quand même ce qui se passe avec votre réforme là maintenant.
Elle serait beaucoup trop. Ça manquerait de prudence et d'humilité. Mais le fait est que je pense que la société est mûre pour des réformes. C'est vrai dans le domaine de l'éducation comme dans d'autres domaines, précisément parce que beaucoup de choses ont été essayées ou beaucoup de choses n'ont pas été faites alors qu'elles devaient être faites. Et aujourd'hui, si on explique bien, eh bien, on peut avancer. Et moi, une chose à laquelle je tiens beaucoup, c'est d'expliquer, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que j'espère faire grâce à vous aujourd'hui, expliquer pour tout simplement avoir cette société de confiance, ayant confiance en son école, dont on a besoin, parce que les pays qui vont bien sont les pays où la société fait confiance à son école, et où donc il n'y a pas de grand clivage qui traverse la société quant à ce qui doit se passer à l'école.
Françoise Fressoz.
Alors, application pratique, cette semaine, c'est la réforme du bac qui est proposée par un rapport. Vous allez donner vos conclusions mi-février. Beaucoup de gouvernements se sont cassés les dents sur cette réforme parce que le bac, c'est un monument. Pourquoi le réformer ? Jusqu'où allez-vous aller ?
Alors, Michel Blanquer.
Il y a la question du pourquoi et du comment. Donc, pourquoi ? Parce qu'il y a des limites au baccalauréat actuel. Le baccalauréat est devenu trop lourd. Le baccalauréat a perdu une partie de son sens pour différentes raisons. La plupart des élèves, en fait, savent déjà au moment où ils passent le baccalauréat ce qu'ils feront l'année suivante. Nous devons aussi considérer que le baccalauréat, aujourd'hui, vous fait préparer des choses d'une manière qui, en réalité, ne vous prépare pas pour la suite. Autrement dit, le fait qu'il y ait de l'échec dans l'enseignement supérieur ensuite nous dit quelque chose sur ce qui n'a pas été fait auparavant. Et il faut demain qu'en préparant le baccalauréat, vous prépariez aussi ce qui va vous faire réussir par la suite. Donc ça, ce sont les raisons de réformer le baccalauréat. Il y a aussi d'autres raisons en série qu'on peut qualifier, par exemple, le fait que ce soit très lourd. Ça a comme conséquence que les élèves de seconde et de première des lycées, souvent, ne travaillent pas au mois de juin à cause des examens organisés. Pour ne prendre que ces exemples, je pourrais rester une heure sur toutes les limites de la situation
actuelle. Et sur le diagnostic actuelle. Mais ça, à quoi ressemblera le bac de 2021, le bac de demain ?
Le bac de 2021, je le dirai le 14 février, en Conseil des ministres, je présenterai la réforme du baccalauréat. Mais on a eu une méthode pour arriver à ce que je pourrais présenter le 14 février. Cette méthode, ça a consisté à avoir une consultation menée par Pierre Mathiot, qui a fait un excellent travail, qui a reçu plus de 100 interlocuteurs, qui est allé sur le terrain, on a lancé une consultation en ligne avec plus de 40 000 lycéens. Et tout ceci, d'ailleurs, de manière très diverse, nous a permis à la fois d'avoir des idées nouvelles et de sentir un petit peu où en était la société française et les acteurs de l'éducation nationale vis-à-vis du baccalauréat. Et donc d'avoir des idées fondamentales. D'abord, la première, elle vient de la campagne présidentielle. Le président de la République avait dit 4 épreuves terminales et le reste en contrôle continu. Donc, bien entendu, ça reste l'ossature de la réforme que nous allons
faire. Donc les élèves auront à choisir entre des majeurs et des mineurs, entre des options fondamentales et d'autres.
Ils auront à choisir probablement, mais là je rentre en discussion pendant les deux semaines et demie qui viennent, je rentre en discussion. Donc chacune des choses que je vais dire est faite pour encore recueillir des arguments, parce que je vais vraiment
mais écouter. Qu'on sache où on est la
Alors,
réflexion.
En gros, la réflexion sur ce point-là, c'est probablement d'avoir le choix de deux disciplines que vous souhaitez en tant qu'élève passer en contrôle terminal, donc normalement deux points forts que vous avez, qui disent déjà quelque chose de vos goûts et de vos désirs, et puis deux autres épreuves qui seront, elles, communes à tout le monde. L'une qui sera, selon toute vraisemblance, la philosophie, oui. dans la grande tradition française qu'on n'a absolument pas envie de fragiliser sur un tel sujet. Et puis, deuxièmement, nous réfléchissons, chacun le sait, sur un oral qui, là aussi, permettrait de développer une compétence qui est largement insuffisante aujourd'hui dans notre pays, c'est-à-dire celle de savoir s'exprimer dans un bon français, avec des arguments.
Donc ça, c'est acquis. Il y aura un grand oral au baccalauréat.
Écoutez, sauf si dans les 15 jours qui viennent, alors, quelqu'un me présente des arguments tellement convaincants que nous ne le ferons pas.
Justement, vous dites, voilà, négociation, concertation pendant 2 semaines et demie. D'abord, 2 semaines et demie, c'est assez court. Présentation le 14 février en Conseil des ministres de votre réforme du bac. On a le sentiment, finalement, que vous allez reprendre in extenso le rapport Mathiot, puisqu'il s'appelle comme
non,
ça.
Non,
Jean-Michel Blanquer.
Non, parce que le rapport à plusieurs reprises offre plusieurs scénarios, donc oui. il y a des choix à faire.
Notamment sur le contrôle continu.
Par exemple, sur le contrôle continu, non, il y a toute une série en plus de détails dans lesquels il ne rentre pas. Il y a des choses qui peuvent se discuter. Moi, je suis vraiment un homme d'arguments, si vous voulez. Ce qui m'intéresse, c'est de voir le pour et le contre. À chaque fois, il y en a, évidemment.
Si on vous dit radicalement non, pas de contrôle continu, par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que c'est sur la base...
Il y aura du contrôle continu. Non, ce qui est certain, là, la chose qui est l'ossature, c'est 4 épreuves terminales et le reste en contrôle continu. Tout le reste, c'est fait pour être discuté, même
qui pèsera à peu près 40% de la note totale
du
bac.
Mais même ça, le pourcentage, là, la proposition, c'est 40% pour le contrôle continu. Je trouve que c'est une proposition très intéressante. Elle recueille plutôt mon adhésion, mais je vais écouter. On peut tout à fait faire évoluer ça s'il y a lieu. Il y a bien d'autres sujets. Vous voyez, par exemple, on entend s'exprimer des craintes disciplinaires. Comme cela est naturel dans ce genre de processus. Ce que je veux dire vis-à-vis de chacune des disciplines qui existent aujourd'hui, c'est que toutes vont se trouver renforcées par ce qui va arriver. Parce que chaque élève qui choisira une discipline, l'une des deux matières fortes dont je parlais tout à l'heure, par définition, en fera plus qu'auparavant. Autrement dit, je prends l'exemple des mathématiques. Mathématiques, aujourd'hui, vous avez dans l'enseignement supérieur des gens qui se plaignent d'un affaissement du niveau des nouveaux étudiants en mathématiques. C'est un fait. On pourrait dire la même chose en physique-chimie et probablement dans d'autres disciplines. Eh bien, demain, les élèves qui feront des études supérieures en mathématiques ou en sciences auront fait plus de mathématiques qu'ils n'en font aujourd'hui. C'est un des buts de la réforme.
Ça veut dire que vous les spécialisez plus jeunes.
Ça veut dire qu'on fait des choix, mais on peut aussi changer de choix. Il y a des passerelles, par exemple, entre la première et la terminale. On pourrait, mais ça aussi, ça se discute, changer de majeur. Mais en tout cas, on se teste, on se responsabilise. On a quelque chose qui, finalement, fait aussi plus confiance au lycéen, lui permet d'exercer ses choix, de valoriser sa personnalité, en réalité. C'est bien le but. Avec un point majeur, dont la classe de seconde devra traduire un petit peu la priorité prochainement, c'est la très bonne expression en français, à l'écrit comme à l'oral. Alors. Et là aussi, pardon de le dire, mais il y a un peu de en même temps, c'est-à-dire que on va valoriser l'oral, c'est sûr, mais c'est certainement pas au détriment de l'écrit. On a besoin d'un français structuré, de qualité chez chaque élève, à l'écrit comme à l'oral.
Alors justement, à propos du grand oral que vous voulez instaurer, il y a un certain nombre de critiques, encore hier dans Le Monde, un sociologue, Pierre Merle, qui dit « Écoutez, ce grand oral, c'est simple, ça va favoriser les enfants bien nés, ceux qui auront bénéficié d'un entourage, de parents qui s'expriment très bien, et les pauvres, les autres, ceux qui n'ont pas cette espèce de bagage intellectuel, eh bien, ceux-là, ils seront finalement désavantagés par rapport aux autres, même si on donne quelques cours à l'oral. » Qu'est-ce que vous répondez à cette critique qui a l'air naturel, qui est quand on n'est pas bien entouré, quand on ne maîtrise pas l'éloquence, même s'il y a plein de films qui nous montrent que ça se rattrape, vous répondez quoi ? En quoi c'est égalitaire ?
D'abord,
ce genre
Jean-Michel Blanquer. Par définition, je prends chaque critique au sérieux. Et donc je la prends au sérieux comme les autres. Il y a évidemment une part de vérité dans cette critique. Une part seulement, parce qu'il faut aussi éviter les clichés qui sont d'ailleurs teintés de mépris social. On connaît tous des enfants de milieux défavorisés qui sont extravertis et qui parlent bien, et inversement, des enfants de milieux plus favorisés qui sont timides. Et donc, il n'y a pas non plus une loi absolue sur ces sujets. Mais deuxièmement, quand bien même cet énoncé serait en partie exact, eh bien, il ne faut pas casser le thermomètre. Il faut, au contraire, bien préparer tous les enfants de France à réussir à l'oral. Donc,
Le problème. Est-ce que l'école française est
C'est tout le sens.
Est prête à préparer les élèves à un grand oral.
Bien, oui. C'est là que vous voyez la cohérence de tout ce qui est fait, aussi bien à l'école primaire, au collège qu'au lycée, dans les nouvelles politiques menées. C'est que nous voulons justement un enfant qui progressivement, regardez ce que je vous disais tout à l'heure sur la maternelle, progressivement s'épanouisse, et notamment par le langage écrit et oral. Donc, le baccalauréat, il est si important parce que il donne un signal en aval, il donne un signal de fin de scolarité, et ce signal, il a un impact en amont sur les classes précédentes. Donc le signal que nous donnons pour fin 2021, pas pour demain matin, pour juin 2021, c'est en effet, il faut se préparer à l'oral, et donc en effet, dans les lycées, on va préparer à l'oral, et donc il y a une vertu de faire cela. Et non seulement on va pas accentuer les inégalités sociales en faisant ça, mais on va au contraire les compenser parce qu'on va préparer tous les élèves à savoir mieux s'exprimer à l'oral. Plutôt que d'avoir ce que l'on a aujourd'hui, où on gomme le problème avec le genre d'argument que vous avez dit, et en gommant le problème, eh bien, les élèves échouent ensuite, après le baccalauréat, dans l'enseignement supérieur.
Avis aux collégiens, aux élèves de 3e qui nous écoutent aujourd'hui, puisque ce sont eux les premiers concernés par la réforme du baccalauréat que vous allez mettre en œuvre, Jean-Michel Blanquer.
Faites du théâtre, par exemple.
Est-ce que ça veut dire que la maîtrise parfaite de la langue française et de l'art oratoire sont vraiment maintenant, ça va devenir le critère de sélection de l'école française ?
Autant que l'expression écrite en français aussi. Si vous voulez, le langage, on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs sur un autre sujet dans ce que vous montriez, le langage c'est le propre de l'homme. L'homme c'est un animal social, c'est-à-dire, comme le disait Aristote, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se déploie grâce à ses interactions avec les autres. L'éducation est au cœur de cette interaction et le moyen de tout cela c'est le langage. Donc le langage c'est essentiel et bien des mots de notre société, y compris la violence, trouvent leur racine dans le fait que le langage c'est parfois affaissé dans notre vie courante. Et d'ailleurs, les médias jouent aussi un rôle, comme l'éducation, dans cette matière. Donc, je n'ai pas peur d'afficher qu'il y a un projet de société derrière l'idée que de donner à tous les enfants un langage structuré, un vocabulaire riche dès l'école primaire et qui se déploie par la suite. Parce que de toute façon, c'est aussi cela qui fera la différence dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle. C'est ça qui permet d'avoir des métiers dans le futur, c'est d'avoir une culture générale, d'avoir dans le futur, le grand enjeu, c'est la relation homme-machine et comment, dans cette nouvelle société très technologique, on trouve tout simplement, nous, les êtres humains, notre place. Et le langage va être fondamental. Donc, c'est une très grande discrimination sociale que de laisser perdurer des différences de langage qui sont liées en général aux circonstances familiales. Et si l'école de la République veut vraiment être l'école de la République et compenser les inégalités, sa première priorité, c'est de donner un français de très bonne qualité à tout le monde, à l'écrit comme à l'oral.
Toujours pour comprendre l'état de votre réflexion, il y a plusieurs pistes pour ce contrôle continu qu'on retrouverait au bac dans 3 ans. D'un côté, des contrôles réguliers qui seraient anonymes, nationaux, organisés régulièrement au cours de l'année. Et puis de l'autre, les bulletins scolaires, ce qui existe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a à votre préférence pour évaluer ce contrôle continu?
Là, si vous voulez, on est typiquement dans les enjeux de la discussion qu'on va avoir avec les partenaires. Vous savez, les partenaires que je vais écouter pendant les semaines qui viennent sont des partenaires qui ont une forte expérience de l'éducation nationale, de sa vie quotidienne. Et donc, on voit bien les avantages et les inconvénients de chacune des formules qui sont là. Donc, ce que l'on retiendra, c'est ce qui ressortira de ces discussions.
Mais pour l'instant,
arriver...
vous préférez quoi?
Moi, je pense qu'il faut...
Puisque c'est vous qui trancherez en dernier ressort.
Parmi les arguments importants, il y a celui d'objectiver. Et le sujet de l'objectivation de la correction et du caractère réel de la correction, c'est très important. Et on sait d'ailleurs qu'on ne part pas d'une situation pure et parfaite non plus. Donc il faut saisir cette occasion pour même s'améliorer en la matière. Aujourd'hui, en plus, vous avez des élèves qui ratent des épreuves du baccalauréat parce qu'ils sont malades le jour de l'épreuve ou ils ont de l'angoisse, etc. Donc le contrôle continu vient apporter plus d'égalité de cette façon-là parce que ça traduit davantage l'effort qui a été mené tout au long de la scolarité. Donc c'est cet élément d'objectivation que j'ai à l'esprit. Donc, de toutes les façons, on va arriver, bien sûr, à des copies anonymes le jour où on a les notes qui comptent pour le contrôle continu, ça, c'est certain. Et puis, on va voir si la manière dont on organise la correction pour l'objectiver au maximum. Souvent, les établissements ont l'expérience du bac blanc aujourd'hui qui permet déjà, en partie, de faire cela.
Donc, vous appuyez sur le bulletin, visiblement ? Non.
Le bulletin peut être utile à certains moments. Si vous prenez, par exemple, une des propositions du rapport Mathiot, c'est qu'il n'y ait plus d'oral de rattrapage, mais qu'on regarde le bulletin. Il y a franchement des arguments intéressants pour cette idée, puisque ça permet justement, par exemple, de regarder l'assiduité, de regarder ce que l'élève a montré au cours des mois et même des années précédentes. Et donc, c'est normal aussi de prendre en compte toute une série de qualités que l'élève a montrées sur la durée. Donc, c'est intéressant, mais enfin, on peut encore en discuter. Je le dis très franchement, j'ai pas une position absolue sur ces sujets, puisqu'il y a des arguments pour et contre. Et il faut, là aussi, ce sera un bon exemple dans les semaines qui viennent, de démocratie française renforcée, que d'échanger des arguments, de voir ce qui fonctionne le mieux et à la fin de prendre la décision la meilleure à l'appui des arguments.
Françoise Fressoz.
Votre chantier est immense. Beaucoup de ministres de l'Éducation ont buté sur les réformes. Vous en faites tous azimuts. Est-ce que vous dites pas un moment, oulala, j'y vais trop vite, trop loin et je vais me prendre quelque chose dans la figure?
Non, parce que ce qui est important, D'abord, c'est que le besoin qui existe pour ces réformes, elles ne viennent pas pour le plaisir de faire des réformes. C'est parce qu'il y a un certain nombre de déblocages que nous devons faire pour le bien de nos élèves, tout simplement. Donc c'est leur raison d'être, hein. Il n'y en a pas d'autre. Ensuite, il y a la cohérence des réformes entre elles. L'ordre dans lequel elles interviennent n'est pas anodin. C'est un ordre cohérent, autant que possible. Ensuite, ce sont souvent des sujets sur la durée. Par exemple, là, on parle du bac de juin 2021. Ça ne concerne pas les lycéens qui sont actuellement au lycée, mais comme vous l'avez dit, les élèves qui sont actuellement
en troisième.
Et donc en troisième. Donc ça nous laisse d'ailleurs le temps dans la mise en œuvre bien faite des choses. Mais là, par exemple, nous sommes focalisés depuis tout à l'heure, à juste titre, sur le baccalauréat général et technologique qui va changer. Mais il y a aussi la réforme de l'enseignement professionnel que nous sommes en train d'amorcer en parallèle. Il serait impensable de ne pas les concevoir dans le même temps, parce qu'il y a le bac pro qui, bien entendu, lui aussi doit évoluer, et parce que je considère la réforme de l'enseignement professionnel comme encore plus importante que celle de l'enseignement général et technologique.
Alors justement, en matière de réforme de l'enseignement professionnel, quel est le signal que vous voulez envoyer? On a l'impression depuis toujours que c'est un peu le parent pauvre, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un petit peu méprisé, dont on considère que c'est pas aussi chic et aussi valorisant que le reste. C'est quoi vos pistes de travail et les signaux que vous voulez envoyer aux enfants qui pourraient avoir envie de s'orienter par là?
Jean-Michel Blanquer.
C'est très clair. J'ai vraiment une ambition extrêmement forte pour l'enseignement professionnel. C'est d'ailleurs pour cela que je dis que ma première priorité, c'est l'école primaire. Je crois que tout le monde l'a bien compris. Mais ma deuxième priorité, c'est l'enseignement professionnel, y compris devant ce que nous venons de dire sur le baccalauréat. Pourquoi? Parce que c'est vrai, vous l'avez dit, ça fait des décennies qu'on parle d'égale dignité de l'enseignement professionnel par rapport à l'enseignement général et à l'enseignement technologique, et que dans les faits, ce n'est pas tout à fait cela qui se passe, et que souvent des élèves se retrouvent dans l'enseignement professionnel un petit peu par hasard ou parce que ils se sont trouvés orientés par
ou par défaut.
Le but que je nous fixe, c'est d'arriver à ce que dans des temps pas très lointains, on aille dans l'enseignement professionnel, comme ça arrive heureusement pour par exemple aujourd'hui en restauration, comme il y a une mode une bonne mode sur la cuisine. Eh bien, vous avez beaucoup d'élèves, quel que soit leur niveau scolaire, qui vont en cuisine parce que il y a du prestige.
Eh bien, vive les concours de cuisine à la télé.
En effet, voilà, on
Top voit Chef, Master Chef,
vous avez un rôle très
des
très important. Hein. Il se dit par exemple que la série L'Instit avait été créée à la demande de François Mitterrand
pour retraiter du
prestige à la fonction d'instituteur. Et si cette anecdote est exacte, elle est belle. Le fait est que vous avez une série de métiers dont on doit montrer le prestige dans les temps futurs, avec deux grandes révolutions de notre époque essentielles que sont les révolutions numériques d'une part, la transition écologique d'autre part, qui conduit à revisiter une très grande partie des métiers et qui font que dans le futur, ce que nous voulons, c'est de véritables campus professionnels, je dis parfois des Harvard du professionnel, pour bien insister sur le prestige, où vous aurez à la fois des lycées professionnels, et il faut dire à quel point les lycées professionnels, c'est important dans notre pays, on a besoin de l'enseignement professionnel, et on doit avoir une considération particulière pour les professeurs de lycées professionnels, que je vois beaucoup en ce moment, mais aussi on aura donc les lycées professionnels dans de tels campus, l'apprentissage, et avec Muriel Pénicaud, on est en ce moment attelé à une réforme de l'apprentissage cohérente avec ce que je vous dis. On pourrait avoir aussi des universités, il y a des laboratoires de recherche qui s'installent sur ces campus. Il y aurait des terrains de sport, des internats, bref, des choses qui font envie et qui font que dans un monde où il y aura de plus en plus de formations tout au long de la vie, si vous vous engagez dans l'enseignement professionnel, c'est pas parce que vous êtes dans un couloir malgré vous, mais c'est au contraire parce que vous êtes sur un tremplin vers des domaines qui correspondent à des choses très concrètes, mais aussi à une pédagogie extrêmement pragmatique et dont vous avez envie quand vous avez 14 ans ou 15 ans et que vous vous dites « tiens, c'est plutôt cela qui me ferait envie dans le futur ».
Françoise Pressos, puis Karine Bécard.
Quand on se souvient de tous les ministres qui ont dit les mêmes déclarations que vous, je pense à Edith Cresson notamment, qui voulait vraiment favoriser l'enseignement professionnel. Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qui fait que vous allez réussir, vous ? Parce que à chaque fois qu'il y a eu des déclarations comme ça, on a échoué.
Alors, Jean-Michel Blanquer.
L'avenir le dira, mais si vous voulez, l'objectif, c'est quand même, encore une fois, de faire des choses cohérentes qui fassent sens. On ne peut pas juste décréter des choses, on ne peut pas juste dire « vive l'enseignement professionnel, donnons-lui égale dignité », parce que même les mots ont fini par perdre leur sens au fil du temps, ils ont été démonétisés. Et ce qui, je crois, donne de la crédibilité à ce que nous sommes en train de faire, c'est la cohérence du projet d'ensemble, le fait que tout le monde peut le comprendre. Par exemple, ça va se traduire aussi par des faits concrets. Exemple, j'ai demandé à ce que cette année, ce ne soit pas un objectif spécifique pour les collèges, que d'envoyer tel pourcentage en général, tel pourcentage en lycée technologique, tel pourcentage en lycée professionnel. Parce que l'éducation nationale était dans une certaine contradiction auparavant, puisqu'elle disait égale dignité des trois voies, mais il y avait une sorte de bonus à envoyer plus de monde en général. Donc vous aviez après plus d'élèves qui redoublaient en seconde. Ce qui est, et finalement, c'est une sorte de fausse bienveillance. Demain, c'est vrai dès le mois de juin, on doit aller là où c'est le bien de chaque jeune, avec des passerelles accentuées ensuite, si on veut changer d'avis une fois qu'on a pris une voie. Il y a donc, et ça je crois que c'est vu, y compris par les professeurs eux-mêmes, par les acteurs de l'éducation nationale et par les familles, il y a une cohérence entre les changements de court terme que nous sommes en train de faire et puis les perspectives d'avenir, de plus long terme, que nous sommes en train de dresser. Et donc, je suis optimiste de ce point de vue-là, parce que, au fond, vous savez, l'immense majorité de la population française, elle a juste envie que ça change de manière pragmatique, avec du bon sens et en fonction de constatations que l'on fait des réalités de terrain.
Karine Bécard.
Est-ce que dans la cohérence du projet d'ensemble, ça fait deux fois que vous utilisez cette expression, est-ce qu'il y a aussi le statut de l'enseignant qui va changer ? Est-ce que vous allez le faire travailler plus longtemps, mieux le rémunérer ? Est-ce qu'il va, par exemple, voir ses horaires à annualisé, on en a entendu parler.
Jean-Michel Blanquer.
Déjà, les personnels de l'éducation nationale, et donc les professeurs notamment, sont au cœur de ma politique. C'est-à-dire que, pour moi, les professeurs, j'ai d'abord un message vis-à-vis de la société française qui est qu'on doit remettre le professeur au centre de la société française, on doit respecter les professeurs, c'est un point fondamental. Quand on dit respecter les professeurs, c'est pas seulement les élèves qui respectent le professeur dans la classe, ça c'est déjà fondamental, mais c'est aussi dans la relation famille-professeur que nous devons améliorer et qui suppose suppose un respect de tous envers tous. Et puis,
dans mais les respecter sera déjà revalorisé éventuellement.
Oui, bien sûr. Non, mais j'y viens. Mais c'est déjà tout un état d'esprit. Vous savez, les sociétés. J'ai dit en commençant tout à l'heure, les sociétés qui vont bien sont les sociétés où la société a confiance dans son école. Quand on veut être concret, la traduction première de ça, c'est un discours de prestige, je dirais, vis-à-vis de la fonction professorale. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la série L'Instit. Nous devons aimer nos professeurs. Je crois d'ailleurs que c'est le cas de la grande majorité des gens, mais ça doit être plus explicite, plus dit, et déjà le ministre lui-même doit le dire, et donc c'est ce que je suis en train de faire. Ensuite, cela se traduit aussi dans certainement une gestion des ressources humaines beaucoup plus humaine. Aujourd'hui, vous savez, l'éducation nationale, c'est un peu plus d'un million de personnes employées par l'éducation nationale, c'est considéré comme une des plus grandes structures du monde. Il y a plus de 850 000 professeurs gérés par l'ordinateur, d'une certaine façon. Demain, nous devons avoir une gestion des ressources humaines beaucoup au plus près des réalités de chacun, de façon à créer du bonheur professionnel beaucoup plus grand. Donc c'est tout le sujet des affectations, des mutations qui vont évoluer dans les temps qui viennent. Et ceci va se traduire par une vision au plus près du terrain. Bien entendu,
Du terrain, concrètement, on les fait travailler plus ou moins ?
Mais on veut surtout arriver à des choses plus souples, qui correspondent à ce. Il y a des moments dans la vie où vous voulez travailler plus, d'autres vous voulez travailler moins, d'autres vous voulez travailler autrement.
C'est mais on veut toujours que la fiche de paye soit plus agréable. Ça, de toute façon, c'est une constante.
Je suis très ouvert à ça, d'ailleurs.
Oui, dans la revalorisation des enseignants, il y a la question salariale. Ils sont mal payés, les enseignants. Est-ce que vous vous engagez sur le quinquennat à revaloriser le métier d'enseignant ?
Jean-Michel Blanquer.
Bien sûr que sur le quinquennat, nous avons le but de revaloriser le métier d'enseignant. Encore une fois, ça passe par la question salariale, mais pas seulement.
Ça
passe par là. Dans le cadre de la situation budgétaire de la France que tout le monde connaît. Donc, il ne s'agit pas de faire des promesses intenables parce qu'on ne pourrait pas le faire, tout simplement. En revanche, qu'il y ait une légitimité à vouloir payer plus les professeurs dans le futur, je ne le discute absolument pas. Et à l'échelle du quinquennat, je ferai mon maximum dans ce sens. Après, il y a aussi il faut distinguer. Par exemple, c'est particulièrement vrai des professeurs du premier degré, ce que je viens de dire. Par ailleurs, on peut faire des efforts spécifiques dans certains cas. Par exemple, on travaille actuellement à une prime importante pour les professeurs qui vont dans l'éducation prioritaire, ceux qui au passage. Notre point de repère, c'est 3000 euros annuels, mais on doit encore discuter. Et surtout, il faut tout introduire dans un écosystème général. C'est pas une prime pour une prime. C'est évidemment pour faire évoluer le pouvoir d'achat des professeurs dans le bon sens, ceux qui seront concernés. Mais c'est aussi pour inscrire ça dans une logique plus générale. Par exemple, sur l'éducation prioritaire, comment est-ce qu'on donne des incitations pour le travail d'équipe, pour tout simplement aller plus loin dans l'éducation prioritaire. Il y aura des évolutions de l'éducation prioritaire, par exemple, dans les temps à venir. Et aujourd'hui, quand il y a des primes dans l'éducation prioritaire, je dis souvent, c'est un peu comme une sorte d'indemnisation de quelque chose de difficile. C'est comme ça que c'est conçu dans nos têtes. Demain, ça doit être le soutien à de la réussite.
Le bonheur.
Ouais, on devrait. Bonheur.
Avant de donner la parole à Nathalie Saint-Cric, beaucoup de messages sur Internet. Jean-Michel Blanquer qui vous interpelle sur les effectifs dans les classes, sur le nombre d'élèves par classe, notamment en maternelle avec 27-30 élèves par classe. Comment mettre en œuvre ces réformes dont vous dites qu'elles sont absolument essentielles et donc ça vaut pour des tas de situations, des tas d'établissements. Ça, c'est du lourd. Et c'est très compliqué à modifier.
Oui, mais on doit le faire évoluer, là aussi, avec pragmatisme. D'abord, comme vous le savez, on a envoyé un signal très important en septembre dernier, avec le dédoublement des classes de CP et de CE1, de CP d'abord, et puis l'année prochaine de CE1 par deux en réseau d'éducation prioritaire renforcé, puis en réseau d'éducation prioritaire. Quand cette mesure sera à maturité, c'est-à-dire fin 2019, c'est 320 000 élèves par an qui seront concernés. C'est donc considérable. On est au cœur de la lutte contre les inégalités dans les territoires les plus défavorisés. Eh bien,
mais c'est pour ça que j'emploie le mot lourd, c'est que c'est extrêmement
après,
lourd à faire évoluer.
Ce raisonnement, moi j'entends, vous savez, je vais dans beaucoup d'écoles, et souvent d'ailleurs en école maternelle, c'était encore le cas vendredi, où je suis allé d'ailleurs dans une maternelle magnifique et où les enfants étaient heureux et avec des taux d'encadrement meilleurs que celui que vous venez de dire. Je sais qu'il y a des situations comme celle-là. Et c'est certain, enfin, on a tous parfois accompagné des enfants à l'école maternelle et vu une maîtresse se débrouiller avec plein d'enfants et se dire que
c'est assez admirable. Mais comment fait-elle?
Ça, bref, quand, exactement. Moi, c'est, ben, c'est rejoint ce que je disais tout à l'heure. Je veux d'abord un sentiment d'admiration. Là, évidemment, c'est pas la seule réponse. La deuxième réponse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les assises de fin mars qui permettront de réfléchir à ça et aux solutions du futur. On a un enjeu du côté des ATSEM, qui sont donc, comme chacun sait, employés par les communes pour aider les maîtres et les maîtresses dans les écoles. Elles doivent être valorisées. C'est un sujet à voir évidemment avec les communes et nous y travaillerons comme il convient. Il y a un sujet de formation, par exemple formation des ATSEM, formation initiale et continue de nos professeurs et des ATSEM, de façon à ce que ce taux d'encadrement à l'école maternelle progresse dans le futur, parce que nous avons un grand enjeu national qui est de 0 à 6 ans, ce qui se passe pour nos enfants, pour qu'ils entrent ensuite à l'école élémentaire, en cours préparatoire, avec tous les atouts.
Alors, vous êtes le ministre de l'Éducation nationale, donc aussi le ministre de la vie scolaire, des récréations. Pas mal de questions aussi sur ce sujet et ce qui se passe dans les établissements, évidemment, Nathalie Saint-Cric.
Alors, il y a la fameuse question sur le portable, puisque Emmanuel Macron avait annoncé pendant sa campagne, et vous avez repris cette interdiction. Est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça sera en fonction des possibilités des établissements? Comment ça se mettra en œuvre, en pratique?
Jean-Michel Blanquer.
Alors c'est un sujet très important parce que là aussi c'est sur la vie
crucial pour les élèves qui nous écoutent.
Oui oui. Alors
les parents
et les parents surtout.
Oui mais d'abord les élèves.
Je pense que c'est d'ailleurs c'est plus ou moins bien reçu selon les publics concernés. Mais bon il faut assumer évidemment cela parce que nous faisons ça alors encore évidemment pour le bien des élèves. Il y a de plus en plus d'études qui nous montrent que des phénomènes d'addiction aux écrans sont très 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 problématique pour les élèves. C'est particulièrement vrai quand ils sont plus petits, mais ça reste vrai au collège. Vous avez aujourd'hui des collèges d'ailleurs qui interdisent le portable, hein, ça existe déjà et qui s'en portent très bien. Vous en avez d'autres où ça n'est pas le cas. Vous allez dans la cour de récréation, vous voyez là où vous voyez des enfants autrefois jouer au football ou à chat ou à la marelle, vous ne le voyez plus. Vous les voyez river sur le téléphone portable.
Et donc en train de jouer.
Ce n'est pas la société.
Comme les adultes, et donc concrètement, on fait comment pour leur enlever ?
Ce n'est pas la société que nous.
Vous allez l'interdire.
Donc oui, bien sûr.
De manière générale,
strictement.
Dans tous les établissements.
Oui, tout à fait, bien sûr. Alors, une des répliques que l'on me fait lorsque je dis ça, c'est « mais il peut y avoir un usage pédagogique du portable ». Ce qui est tout à fait vrai. C'est une réplique, par exemple, que l'a fait Laurent Alexandre. On peut faire avoir un usage pédagogique du portable, mais on va trouver des formules qui permettent de le sortir, le cas échéant, lorsqu'il y a un tel usage utile. Mais cet arbre-là ne doit pas cacher la forêt. On a d'abord des usages qui ne font pas. On a du harcèlement sur les réseaux sociaux, on a des sites pornographiques consultés, on a des enfants qui filment des choses qu'ils ne devraient pas filmer, qui ensuite sont diffusées. On a des tas de phénomènes de ce type qui sont graves. Nous devons les regarder en face. C'est populaire ou ça ne l'est pas, peu importe, il faut le faire, et donc ce sera fait.
Désolé pour vous, chers collégiens et lycéens qui nous écoutez.
Pragmatiquement, comment vous allez le faire? Parce qu'en fait,
alors, il y a une dimension.
Sur le principe, on est d'accord, et puis après, c'est très compliqué.
Si vous voulez, il y a une dimension juridique, une dimension pratique. Sur la dimension juridique, à la rentrée, ce sera une réalité nationale sur laquelle tous les chefs d'établissement et tous les acteurs pourront s'appuyer, qui est... C'est interdit.
Et donc on ne vient pas avec son portable, c'est
non, ça ne veut pas forcément dire ça. Ça ne veut pas forcément. Ça veut dire que on n'utilise pas son portable en classe, c'est déjà dans le code de l'éducation, mais aussi
dans
la cour, dans l'établissement en général. Ce qui là serait davantage nouveau. Ensuite, cette mesure a vocation à être appliquée. Nous allons voir maintenant les solutions pratiques. Nous sommes en train d'en discuter. Il est probable d'ailleurs que on proposera plusieurs solutions pratiques possibles aux établissements. Certaines peuvent être très très simples, mais je préfère pas le dire tout de suite puisque nous sommes en train d'y travailler. Elles peuvent être très simples telles qu'elles s'appliquent aujourd'hui dans certains établissements. D'autres peuvent être plus élaborées. Par exemple, c'est les casiers. Mais il y aura probablement pas une solution technique unique, mais plusieurs solutions que les établissements choisiront via leur conseil d'administration de manière libre, mais qui doit aboutir au résultat qu'il n'y aura plus d'usage du téléphone portable dans la vie courante. Et voilà.
Françoise Fressoz.
Alors, Nice a installé des policiers non armés dans les écoles. Vous avez laissé faire l'expérimentation.
Sur place avant-hier.
Est-ce qu'elle est appelée à se généraliser?
Oui, tout à l'heure, quand je faisais allusion à une école maternelle, tout à l'heure, c'était effectivement à Nice. J'ai donc pu rencontrer, parler avec des policiers municipaux aussi, voir un petit peu comment c'était envisagé. C'est une expérimentation qui commencerait prochainement et pour laquelle j'ai donné mon feu vert en tant qu'expérimentation. Vous avez dit à quel point c'était une méthode que je trouvais bonne, c'est-à-dire ça permet de tester des choses à petite échelle et de voir ce que cela donne. J'ai demandé à ce que ce soit non armé. Et une des choses qui m'ont paru les plus intéressantes, c'est aussi la relation entre la police et les enfants. Parce que le policier non armé à l'intérieur de l'école, c'est quelqu'un qui, en fait, va être au quotidien avec les enfants et va en réalité s'intégrer dans
uniforme.
Dans et en uniforme de police municipale. Encore une fois, on va voir ce que ça donne. Hein. Si ça se trouve, dans un an, on fera le constat que c'était pas, que ça n'était pas une bonne idée. Mais peut-être que ça peut être une très bonne idée, y compris pour cette relation entre la police et la population, qui doit être toujours une bonne relation et qui peut passer par l'école. Et puis, on le sait tous, Nice est passé par un épisode dramatique. Et donc, il y a, c'est vrai, une sensibilité particulière qu'il faut respecter. On va regarder ça au cours des prochains mois. C'est à petite échelle, mais ça m'a paru intéressant. Et quand Christian Estrosi a proposé cela, je ne voyais pas de raison de ne pas essayer.
Nathalie Saint-Cricq, puis Karine Bécard.
Quelles sont les remontées que vous avez du terrain sur l'éventuelle tension qu'il peut y avoir en matière de religion, en matière de radicalisation? C'est-à-dire, est-ce que ça s'arrange? Est-ce qu'on peut enseigner la Shoah? Est-ce qu'on peut enseigner un certain nombre de choses? Ou en ce moment, vu le contexte, vous avez des remontées qui sont inquiétantes?
Jean-Michel Blanquer.
Oui, la situation n'est pas bonne sur ce sujet, et nous le savons tous, je pense. Donc, il faut pas non plus la caricaturer. Elle est extrêmement hétérogène. Dans l'immense majorité, heureusement, des écoles et des établissements, il n'y a pas de problème aujourd'hui. Mais dans certains établissements, oui, il y a des problèmes. Et sur ce sujet comme sur d'autres, j'ai pas du tout envie de me voiler la face ou de mettre la tête sous terre. Je veux regarder les choses en face. C'est pour cette raison qu'on a.
Vous avez un sentiment d'impuissance? J'ai
le sentiment que certains se trouvent en situation d'impuissance sur le terrain, des professeurs en particulier,
oui.
Et ou des chefs d'établissement, ou des personnels de l'éducation, ou des collectivités. Et je pense à eux. Et mon message vis-à-vis d'eux, il est très clair, c'est vous ne serez pas seuls. Et ça, c'est mon moteur, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Premièrement, on a créé le Conseil national de la laïcité, le Conseil des sages sur la laïcité à l'échelle de l'éducation nationale pour les problèmes propre à l'éducation nationale, qui est quand même un domaine très large, de façon à avoir déjà une réponse unifiée sur chacun des problèmes qui peuvent se présenter. Autrement dit, ce que je veux déjà éviter, c'est l'hétérogénéité des réponses. Parce que si on dit la solution A dans un endroit, la solution B dans un autre, la solution C dans un troisième, eh bien, pour tous ceux qui essayent de tester la laïcité, qui essayent d'affaiblir la République, eh bien, nous ouvrons des failles qui ne sont pas bonnes. Donc il faut une réponse homogène qui serve de support, qui serve de point d'appui aux acteurs de terrain. Donc déjà, je pense à eux de cette façon-là. Mais deuxièmement, nous avons créé une unité laïcité à l'échelle nationale et à l'échelle de chaque académie, qui signifie que à chaque fois qu'un professeur est dans une situation qui ne va pas sous l'angle de la laïcité, il doit pouvoir faire appel à son chef d'établissement, et c'est toute l'équipe de l'établissement qui doit être soudée pour répondre aux problèmes tels qu'ils se posent et avoir la réponse appropriée en se référant au national. Et si c'est l'établissement qui se sent seul, et ça arrive aussi, eh bien, c'est à ce moment-là le rectorat, l'académie, avec son unité laïcité, qui vient apporter les réponses appropriées. En termes de prévention, parce qu'il y a beaucoup d'explications, beaucoup de dialogues à avoir sur ces sujets, mais éventuellement en termes de sanctions quand c'est nécessaire. Ce que je veux, c'est une sérénité sur ces sujets, une force tranquille de la République que nous devons avoir sur ces sujets-là et qui va, je vous le garantis, s'affirmer très fortement à l'éducation nationale de façon à ce qu'il n'y ait pas des sortes d'angles morts de la laïcité dans notre système.
Il nous reste très peu de temps, 2 minutes.
Une dernière question, oui, sur les rythmes
Karine
scolaires. Il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup d'enseignants également qui se demandent s'il ne faudrait pas quand même sérieusement revenir à la semaine des 4 jours et demi. Vous avez laissé la liberté aux communes de décider. Elles font souvent des choix financiers. Est-ce qu'il n'est pas temps de revenir sur cette semaine des 4 jours et demi?
Réponse rapide, monsieur. Non,
le principe, vous savez, c'est liberté-responsabilité. Alors, je vais encore faire référence à Nice, mais à Nice, c'est 4 jours. Ils ont fait des activités le mercredi absolument formidables. Donc, chaque cas est particulier. Et toute la population, dans un cas comme celui-là, est très heureuse. On a 80-90%. Je n'ai jamais prôné le retour à la semaine de 4 jours. J'ai prôné le choix. Et vous avez des communes qui se trouvent très bien à 4,5. Et donc, on garde ce qui est bien et elles restent à 4,5. D'autres qui se trouvaient très mal à 4,5, pour diverses raisons, je ne rentre pas dans les détails, et qui ont choisi 4. Maintenant, ce qui compte, c'est pas 4 ou 4 et demi, parce qu'en réalité, il n'y a pas un système, l'un des deux, qui soit meilleur que l'autre. Ce qui est important, c'est ce qui se passe qualitativement pendant ces 4 jours et pendant ces 4 jours et demi, et ce qui se passe qualitativement, et c'est au moins aussi important, pendant le temps périscolaire, et la cohérence de ce qui se passe entre les deux. J'y travaille pour qu'il y ait un plan mercredi l'année prochaine, permettant d'aller au fond des choses, s'intéresser au fond des choses, et pas à leur surface, ou s'intéresser non pas aux tuyaux, mais à ce qu'il y a dans les tuyaux.
On aurait eu encore tant de questions à vous poser, Jean-Michel Blanquer, mais décidément, c'est vrai que le sujet est passionnant et que, pour le coup, vous avez de très nombreux chantiers que vous avez engagés. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toutes les trois.
Merci à vous.
Question politique se termine. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission. Le temps pour moi de monter quelques étages pour retrouver le grand face-à-face de France Inter. Ce sera juste après le journal de 13h. À tout de suite.